Bienvenue dans le Pitch par Shareable, l'émission qui vous plonge dans l'univers passionnant des startups et des levées de fonds. Ici, nous donnons la parole aux entrepreneurs les plus inspirants et innovants pour qu'ils nous présentent leurs projets, leurs visions et leurs ambitions. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également à la rencontre des investisseurs et des fonds qui les accompagnent pour comprendre les enjeux et les défis de l'écosystème startup. Alors, êtes-vous prêts à écouter les histoires captivantes de ceux qui font bouger les lignes de l'entrepreneuriat ? Bienvenue dans le Pitch par Shareable, le podcast qui vous plonge dans l'univers passionnant des startups et des levées de fonds. Dans cet épisode, nous avons l'honneur d'accueillir Éric Larchevêque, entrepreneur chevronné et investisseur confirmé, cofondateur de Ledger et qui est connu pour son rôle de jury dans l'émission télévisée Qui veut être mon associé. Bonjour Éric.
Salut, salut Joseph, bonjour Mégane.
On est ravis de t'avoir aujourd'hui.
Bonjour Éric.
Je suis donc accompagné de Mégane, co-animatrice de cette émission, avocate chez LexInsight, spécialisée en accompagnement des dossiers de levée de fonds. Bonjour Mégane.
Bonjour Joseph.
Éric, tu es très actif en ce moment sur les réseaux sociaux et tu partages généreusement tes conseils et ton expertise pour aider les entrepreneurs à lever des fonds.
C'est vrai.
Aujourd'hui, tu es avec nous pour parler du sujet qui fait faire des cauchemars à tous les entrepreneurs, la valorisation.
Pas que les entrepreneurs, les investisseurs aussi, moi le premier.
Exactement. On a bien vu dans la dernière saison de Qui veut être mon associé, la majorité des débats et des négociations tournaient autour de ce point crucial. Donc on a envie d'avoir ton point de vue et tes conseils sur ce sujet, particulièrement sur la valo en early stage.
Yes, avec plaisir.
Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la valorisation et pourquoi elle est si importante à tes yeux et aux yeux des entrepreneurs ?
La valorisation, c'est combien vaut une entreprise, et c'est important parce que ça va être, à la fin, c'est ce qui va permettre de mesurer le pourcentage que l'on va obtenir en tant qu'investisseur, bon, qui dépend aussi, bien entendu, du montant qui est investi, et comme on va le voir, c'est souvent lié, il y a des rapports qui souvent sont un petit peu les mêmes, mais la valorisation permet de faire le deal ou de pas faire le deal. Et c'est pour ça que c'est un point critique. Et pour ceux qui ont regardé l'émission Qui veut être mon associé, on a vu que c'était l'essentiel, enfin une grande partie des enjeux en phase finale de négociation, d'arriver à se mettre d'accord. Et le sujet, c'était pas tant qu'on faisait de la négo de marchand de tapis, mais qu'il y avait un décalage assez important entre ce qu'estimait être une valorisation de l'entreprise par rapport à la vision des fondateurs, des actionnaires actuels, et celle perçue par les investisseurs. Et souvent, il n'y avait pas de deal ou même pas de négociation du tout parce qu'on partait de trop loin. Et donc, ça montrait à quel point, finalement, on avait des perceptions différentes et assez éloignées sur cette valorisation d'entreprise.
Est-ce que tu penses, Éric, que la valorisation, elle est vraiment intrinsèque à l'entreprise, ou est-ce que la situation économique, comme la situation actuelle, hein, qui est annoncée comme défavorable, a un impact sur cette valorisation ?
Alors, il y a évidemment un impact, puisque la situation économique et le contexte difficile fait qu'en général, les revenus, les perspectives de croissance sont beaucoup plus faibles et le risque à long terme ou à moyen terme des entreprises est plus élevé. Ce qui fait que pour une même somme qui va être investie, on aura tendance à vouloir avoir un montant peut-être plus important du capital pour essayer de dérisquer l'investissement et donc de faire baisser la valorisation. Ensuite, évidemment, toutes les entreprises ne sont pas égales et une entreprise qui pourra faire des revenus, qui pourra sortir même de l'EBITDA ou en tout cas montrer qu'elle gagne de l'argent et qu'elle n'en perd pas, ce qui est assez rare pour des entreprises en early stage, elle pourra sûrement demander des valorisations plus importantes. Et il y a après aussi l'enjeu lié au marché et à la situation de l'entreprise. Si elle est dans l'intelligence artificielle en 2023, elle aura une plus grande valo. Si c'était le Web3 en 2022, c'était une plus grande valo. Voilà, il y a les modes qu'il faut que le contexte est vraiment très important et aura un impact assez large sur la valorisation.
Ok. Et est-ce que tu penses que, par exemple, sur ces derniers mois où on a eu des valorisations qui ont baissé par rapport à ce qui se pratiquait début 2022 ou il y a 4-5 ans, où on a tendance à dire que les valos étaient bien plus élevés qu'aujourd'hui ?
En 2021, c'est là où on a vu les valos les plus élevés. C'est à cette époque qu'on a vu le plus grand nombre de licornes, donc des valorisations d'entreprises qui dépassaient le milliard. Et que ce soit en late stage ou en early stage, les tickets d'entrée, les valorisations d'entrée étaient très élevées parce qu'il y avait énormément de liquidités sur les marchés. Les investisseurs avaient beaucoup de capital à déployer. Il y avait une euphorie, un optimisme qui faisait qu'on était prêt à payer plus cher. Et donc, n'importe quelle start-up qui se lançait pouvait se valoriser 5, 10, 15, voire 20 millions des fois parce qu'il y avait un contexte économique extrêmement favorable. Et là, depuis quelques mois, depuis mi-2022, on voit qu'il y a un resserrement des valorisations. Et même dans le domaine du late stage, il y a des entreprises, beaucoup d'entreprises qui, pour lever des fonds, doivent faire ce qu'on appelle des down rounds, c'est-à-dire lever des fonds à une valorisation inférieure à celle du tour précédent, ce qui n'est pas sans créer un certain nombre de complications, notamment pour le management qui voit sa part, qui se fait compresser de manière importante au capital. Et en ce qui concerne le early stage, clairement, soit il y a moins de deals, soit les deals se font avec des valorisations beaucoup plus raisonnable parce que tout s'est refroidi avec l'augmentation des taux d'intérêt, bien les liquidités partent plutôt sur on va dire des bons du trésor ou des placements extrêmement peu risqués qui rapportent pas mal et le capital a déployé, même s'il reste quand même relativement et paradoxalement important chez les fonds qui avaient bien gonflé leur liquidité, le déploiement se fait de manière beaucoup plus sereine et personne n'est pressé et donc forcément ça fait baisser les valos et les tickets.
Là, on a parlé du coup du contexte économique des valos en général. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la méthodologie en fait de l'évaluation du montant du côté des entrepreneurs en fait. Tu as parlé d'un élément déjà, tu as parlé du marché tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs clés qu'on peut prendre en compte quand on est entrepreneur ?
Alors on va se limiter vraiment au early stage parce que sinon pour le late stage, on va dire, c'est quand même assez différent. Dans le early stage, pour une entreprise qui n'a encore jamais rien démontré et qui a peut-être juste une preuve de marché, mais qui n'a pas de revenus, pas de chiffre d'affaires, que des perspectives, bon, c'est là où tout est possible d'une certaine façon, parce que c'est plus facile de lever quand on part d'une feuille blanche que lorsque on va faire une série A ou une série B, puisqu'on a déjà un passif, et donc les choses vont être différentes. Après, là, bon, il y a quand même une méthodologie à laquelle on peut pas échapper, qui est que d'une manière générale, on va, tant sur un premier tour, on va se diluer entre 15 et 30%, on va dire, et en fonction du montant levé, c'est ça qui fera la valo. Une petite entreprise qui a besoin de 100 000 euros et une autre entreprise qui a besoin d'un million hein, pour faire un gros seed au début, va forcément se valoriser de façon très différente entre peut-être 400-500 000 euros et 2, 3, 4 millions. Alors qu'en réalité, il y a peu de différence. Il y aura peut-être pas plus de personnes dans la team. Ce sera juste l'enjeu et l'enveloppe du ticket qui va faire que la valo va monter. Donc, la seule, finalement, méthodologie qui va être réellement possible, c'est de se dire de combien je veux me diluer, qu'est-ce que j'accepte. Et ensuite, en fonction du montant, est-ce que j'ai besoin de 300 000? Est-ce que j'ai besoin d'un million? Finalement, à la fin, on va se retrouver dans sur des méthodes et des ratios qui restent sensiblement les mêmes et ce sera uniquement en fonction de la taille du ticket qui rendra peut-être la levée plus difficile et là après ça dépendra oui du contexte, du marché, de l'équipe, de sa crédibilité mais à la fin je pense que les valos restent quand même assez codifiés.
Ok, bon, bah, c'est super intéressant. Enfin, du coup tu nous as bien parlé du marché, de l'équipe, le positionnement et puis la maturité. On voit que en early stage, hein, évidemment, les critères comme le MRR et les rentrées financières ou les performances financières, elles restent en fait secondaires à ce stade parce que c'est difficile évidemment de les quantifier et de les appréhender.
Ouais, complètement. Et c'est ce qui fait la beauté et la magie du early stage, c'est que finalement, on n'a encore rien prouvé, on a juste, on va dire, une preuve de concept sur le marché. Il y a ensuite une rencontre entre la croyance qu'on a en face la bonne équipe capable d'exécuter et un marché qui répond qui est en phase avec les demandes du moment. Et ensuite, il faut réussir à mettre le curseur au bon endroit entre le montant qui va être levé et la dilution qui va être prise. Et c'est vrai que, bon, au-delà de la méthodologie en early stage, ça va beaucoup être basé sur l'envie commune de faire un deal. En ce qui concerne en tout cas les BA ou les investisseurs comme moi, beaucoup basé sur on va dire, une analyse de signaux faibles et basée sur l'instinct plus que sur la lecture d'un business plan ou d'autre chose.
Et du coup, c'est surtout à charge de l'entrepreneur de se justifier et d'arriver à convaincre finalement.
Ben complètement, et c'est le rôle du pitch. Le but du pitch, ça va être de convaincre et de séduire l'investisseur pour qu'il ait envie de continuer l'aventure. Et l'entrepreneur va vraiment devoir mettre en avant tous les éléments les plus importants pour justifier sa demande. Déjà, vérifier qu'il a bien fait le bon sizing, parce qu'au-delà, même avant de parler de la valorisation, c'est combien je lève. Est-ce que j'ai besoin de 100 000, 500 000, 2 millions? Et donc ça va avoir un impact majeur ensuite sur la valo et sur la manière dont on va pouvoir construire le deal. Mais c'est sur, là-dessus, il ne faut pas se planter. C'est très dangereux de demander, par exemple, 1 million d'euros pour ensuite terminer à 500 000 parce qu'on aura du mal à expliquer à l'investisseur qu'en fait, avec 500 000, on va s'en sortir. Alors que si on part avec 500 000 et qu'il y a un engouement et qu'on finit par lever 1 million, on arrive toujours à expliquer qu'on arrivera à accélérer, à aller plus loin et justifier peut-être une valo un peu plus importante pour avoir une dilution un petit peu moindre. Mais c'est vraiment le sizing, je pense, qui va être très important puisque, comme on le disait avant, il y a des ratios auxquels on ne peut pas vraiment échapper. Et donc, c'est est-ce que je lève 100 000 ou est-ce que je lève 1 million qui va décider du type d'investisseur avec qui je vais parler. Et donc, ensuite, de la séduction que je vais mettre en place. Alors, c'est pas forcément plus facile de lever 100 que de lever 100 000 que de lever 1 million. Mais en tout cas, pour lever 1 million, il va falloir déployer des arguments extrêmement solides en matière d'exécution et de prouver la capacité de l'équipe à pouvoir adresser le marché.
Ouais, c'est surtout une affaire de communication presque quand on cherche à commencer son roadshow. Tu as parlé d'une erreur, donc le sizing. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs qui te viennent en tête, peut-être les plus courantes quand on parle de valo et du coup du début du roadshow?
Ça va être donc le sizing, ça c'est sûr, on vient de le dire. Et puis ensuite, c'est peut-être de vouloir avoir une valo trop importante, c'est-à-dire de se dire tout de suite, bon, je me mets sur le curseur, de toute façon, au début, je vais me diluer que de 15% ou que de 10% parce que je sais qu'il y aura d'autres levées de fonds par la suite et donc je ne vais pas trop me diluer. Alors certes, il ne faut pas trop se diluer au début et donc ça peut être une erreur de prendre quelques BA ou des friends and family et déjà perdre 40% de son capital. Mais il est en ce moment en tout cas très difficile de pouvoir exiger une dilution à 10% par exemple. Donc tout dépend du contexte, hein, on le disait, et je pense qu'avec un environnement de levée compliqué, difficile, avec peu de liquidité, je pense que toutes les entrepreneurs doivent être réalistes et accepter de se diluer à 20-25 plutôt que 10-15, par exemple. Donc ça, ce sont des éléments, je pense qu'il est important de regarder dès le début et de bien voir si tout le monde, tous les associés sont alignés sur ce type de dilution, plutôt que de partir dans un process qui, à la fin, sera décevant, parce que si on s'accroche à une dilution de 10 points, par exemple, bon, ça va être extrêmement rare de pouvoir obtenir ce type de dilution. Il faudrait vraiment revenir avec un projet qui sorte vraiment du lot par son aspect technologique ou autre.
Merci, Eric. Du coup, si on se place plutôt cette fois-ci du point de vue des investisseurs, est-ce que il y a des astuces qui sont utilisées par tous les investisseurs pour évaluer un potentiel de croissance ou une rentabilité alors qu'il y en a pas encore?
Alors, j'imagine que ça dépend de l'investisseur et ça dépend si on est face à un fonds qui va être très analytique ou plutôt un investisseur privé type moi qui va plutôt analyser les signaux faibles et prendre des décisions à l'instinct. Et sûrement la vérité, elle est entre les deux, parce que on peut pas se baser qu'un instinct et on peut pas se baser uniquement sur une analyse froide d'un Excel, hein, surtout en early stage. Mais je pense qu'en early stage, c'est vraiment des rencontres, c'est vraiment l'envie finalement de participer à une aventure, et c'est pour ça que c'est important de bien choisir son investisseur et que l'investisseur choisisse bien son entrepreneur, puisque c'est le début d'une aventure qui va durer assez longtemps. Et le rôle de l'investisseur, en tout cas au début, au-delà de faire le chèque, ce qui est quand même la première chose attendue, mais au-delà, c'est d'apporter un accompagnement. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que les intérêts soient alignés, qu'il y ait un petit peu une, une osmose, une bonne entente. Et donc, c'est pour cela que on doit bien quand même bien le sentir, puisque les premiers investisseurs, ce ne seront pas des associés, certes, ils restent des investisseurs, mais ils auront quand même un rôle prépondérant. Et c'est vraiment important au début de pouvoir embarquer des gens qui soutiennent le projet, qui sont alignés avec les valeurs, avec les objectifs et qui pourront être de vrais atouts par la suite. Puisque si on a un investisseur un peu boulet ou qui va ne pas aller dans le bon sens, même s'il a fait le chèque, c'est quelque chose qu'on paiera plus tard.
Ouais, en early stage, ce qu'on recherche en plus de l'argent, c'est un mentor, c'est quelqu'un qui va nous comprendre et qui va nous accompagner sur la durée.
Exactement, et ça c'est très important. Donc après, ça va dépendre des entrepreneurs, des équipes d'entrepreneurs, bien qui sont plus autonomes que d'autres. Mais si on regarde l'émission qui veut être mon associé, par exemple, où il y a beaucoup de projets qui sont en early stage avec des porteurs qui manquent d'expérience, parce que souvent ça va être leur première boîte, donc on va pas être dans l'univers de la Startup Nation avec des multi-entrepreneurs, donc on va plutôt être sur quelque chose de différent. Là, l'accompagnement joue un rôle clé, un rôle essentiel, et c'est le rôle que jouent donc tous les business angels qui sont là à la fois pour apporter des fonds, mais aussi pour leur faire profiter de l'expérience. Et là, on est plutôt dans du give back et de l'accompagnement plutôt que vraiment dans de l'investissement avec une attente de retour comme pourrait le voir un financier.
Tout à l'heure, tu as parlé de signaux faibles et de feeling presque humain, et tu viens de reparler à l'instant de qui veut être mon associé. Moi, j'ai une question pour essayer de décortiquer un peu le raisonnement d'un investisseur quand il voit passer une boîte early stage, donc que ce soit sur un plateau TV ou quand il reçoit un deck ou un BP. Toi, quand on t'envoie ou qu'on te présente un dossier, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau ? À quel moment il y a des voyants verts ou des voyants rouges qui s'allument ?
Alors, on va distinguer vraiment l'aspect plateau télé où là on rencontre les investisseurs et donc tout va se baser sur les premières impressions des porteurs de projets. Donc ça va être vraiment comment je sens la personne, est-ce que j'ai envie de travailler avec, est-ce que je ressens un professionnalisme, est-ce que le pitch a du sens ? Est-ce que lorsque je pose des questions, les réponses fusent ? Et si je vais aller essayer de pousser l'entrepreneur dans ses retranchements, comment est-ce qu'il réagit ? Comment il répond ? Est-ce qu'il s'énerve ou pas ? Donc ça, c'est vraiment là de l'analyse de signaux faibles et qui est basée sur ce que je vois et ce que je ressens. Quand je reçois un deck, là, ça va être un petit peu pareil, mais plus basé sur le deck lui-même. C'est-à-dire qu'un deck qui va être illisible, c'est poubelle. Un deck où il y a, je vois tout de suite, trois fautes ou un mot mal fait, enfin, ou des erreurs en fait grossières de présentation, c'est poubelle. Si le deck en fait n'est pas complet dans le sens où il n'a pas tous les éléments essentiels pour raconter l'histoire, à savoir quel est le problème, quelle est l'équipe, quel est le produit, quelle est la légitimité de l'équipe, quel est le marché, quelle est la concurrence, je ne vais pas tout faire, mais et quel est le besoin et comment on va lever, etc. Donc, c'est une dizaine, une douzaine de slides minimum. S'il manque des éléments, c'est poubelle. Si c'est trop chargé, c'est poubelle. Si en fait le deck c'est un wall of text avec des trucs que j'arrive même pas à lire, bah, tellement j'ai des mots, c'est poubelle. C'est-à-dire que moi je vais pas aller essayer d'aller au-delà de voir et de creuser pour voir s'il y a pas une pépite qui est enterrée là, parce que j'ai pas le temps, je reçois trop de decks. Et de toute façon, je me dis que si l'entrepreneur ou les entrepreneurs n'ont pas la capacité en 10 slides, 12 slides, de raconter leur histoire, de pitcher leur projet de façon claire, nette, précise, sans faire de faute d'orthographe, sans arriver à respecter un minimum de mise en page ou d'unicité dans les slides, je me dis, enfin, si c'est n'importe quoi, ou même si c'est bof, je me dis que cette personne, elle n'arrivera pas forcément à aller en clientèle, à vendre. Ou alors peut-être qu'il lui manque quelqu'un dans l'équipe pour apporter la rigueur. En tout cas, c'est trop tôt. Et donc, je vais vraiment faire une sélection basée là-dessus de manière assez drastique. Donc, c'est comme ça que je vais me comporter. Et après, on rentre dans un process qui est un peu plus complexe, un peu plus long. On va faire des calls, etc. Et là, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Mais la première impression, en tout cas, elle est vraiment immense et très importante, surtout pour un investisseur comme moi qui reçoit peut-être... une dizaine en tout cas pendant l'émission, pendant qu'il y a à la télé, une dizaine de decks par jour, et puis en temps normal, peut-être juste deux, trois, quoi. Mais donc, on reçoit beaucoup, ça fait quand même plusieurs dizaines par mois, Et donc, forcément, on va se baser sur la première impression. Et moi, je n'ai pas le temps de tout creuser, d'aller voir s'il n'y a pas une pépite enterrée.
Donc, encore une fois, un exercice de com.
Complètement.
OK. Il y a une slide dont je sais qu'en early stage, elle est souvent assez compliquée pour les entrepreneurs. C'est la slide sur les métriques. Comme tu as dit tout à l'heure, on n'a souvent pas ou peu de revenus. Comment l'entrepreneur doit-il l'aborder de manière intelligente ?
C'est simple, il doit expliquer ce qu'il a fait. C'est la slide que j'appelle de l'exécution. C'est-à-dire démontrer qu'on est capable d'exécuter et expliquer ce qu'on a exécuté. C'est-à-dire que c'est pas l'exercice de la projection du BP, de savoir le hockey stick, en 3 ans on fait 30 millions et 20 millions d'EBITDA, ça je m'en fous. Ce qui est important de savoir dans un deck en tout cas un pitch en early stage, ça va être la capacité de montrer qu'on sait exécuter. Et même si c'est fait de manière assez petite et de manière dégradée, même si on n'a eu qu'un client ou deux clients, mais le fait d'avoir réussi à vendre quelque chose, d'avoir été au bout du process, ça, c'est important. Et je peux donner un exemple qui vient de l'émission qui veut être mon associé. C'était en saison 1, il y avait les tontons afro qui étaient venus présenter leur concept de restaurant africain. Donc, c'est un resto. Et ce qui était très intéressant, c'est que, alors ils n'avaient pas de resto, ils n'avaient rien, donc ils ne pouvaient pas montrer en fait un certain nombre de choses. Par contre, ils avaient fait pendant quelques week-ends un restaurant éphémère dans un local, et donc ils avaient pu démontrer qu'ils étaient capables d'avoir servi 30 couverts par jour, dont 60 dans le week-end. Et donc il y avait ça prouvait un qu'il y avait des gens qui étaient venus, que deux ils étaient capables de cuisiner, trois que les gens avaient payé, quatre qu'ils avaient été capables de vendre plus cher que ce que leur avait coûté. Et donc, ça démontrait quand même une capacité d'exécution qui rassurait. Et ça, c'était un des éléments importants pour moi pour prendre la décision d'investissement, parce que c'est la différence entre une idée et une exécution. Et lorsqu'on est en early stage, il est capital et essentiel de démontrer qu'on est capable d'exécuter. Et même si c'est petit, peu importe. Ce qui compte, c'est le process, c'est dire, voilà, j'ai fait ça A, B, C, D. Après, je peux le faire grandir, on pourra faire plus d'argent. Mais en tout cas, j'ai démontré que je suis capable d'aller de 0 à 1. Et maintenant, vous allez m'aider d'aller de 1 à 100. Mais voilà, c'est ça, c'est l'exécution. C'est prouver sa capacité d'exécution.
Et du coup, je rebondis parce que tu as beaucoup parlé du deck. On voit que c'est important, cette première impression. En revanche, très peu du BP. Est-ce qu'un BP en early stage, ça sert à rien ?
Alors, la réponse rapide, c'est oui, ça sert à rien. La réponse un peu plus construite, c'est OK, on a quand même besoin à un moment d'un BP pour montrer qu'on est capable de comprendre ce que l'on fait. Mais pour moi, c'est plus un cash flow. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien ça va coûter tous les mois, combien vous allez burner. OK, il y a des hypothèses de revenus. Moi, je veux quelque chose de très simple. Après, évidemment, ça dépend des boîtes, ça dépend des projets. Il y en a qui sont beaucoup plus compliqués. Et il faut qu'il y ait un expert comptable qui soit passé par là. Mais si on est vraiment sur du pur early stage, du tout début, moi, le BP, je ne vais même pas le regarder. Ça ne m'intéresse pas de savoir qu'on était capable de faire un BP sous Excel. C'est pas ça qui va m'impressionner. Moi, ce que je veux regarder, c'est le cash flow. C'est vraiment la partie la plus basique, on va dire, du BP. Par exemple, faire une étude de marché complète, faire un SWOT, faire 30 pages, écrire du business plan avec tous les éléments de réflexion sur la concurrence, les machins, les trucs. Moi, je vais même pas les lire. Ça, ce sont des exercices d'école de commerce. Plus personne fait ça. La concurrence, on peut me l'expliquer comme ça. Il peut y avoir un slide, il peut y avoir un machin. Moi, ce que je veux, c'est comprendre les éléments de principe de tous les, du business et du projet. Je pense qu'il y a 12 points qui sont essentiels. Et après, c'est bon, si vous voulez faire un BP complet, amusez-vous. Mais pour moi, ça va être une perte de temps. Il faut mieux se concentrer sur l'essentiel, sur l'exécution. Bon, après, parfois, il y en a, ils ont besoin de faire un BP, ils ont besoin d'écrire les choses. Ça leur permet d'aider, de se structurer. Donc, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas en faire, que c'est contre-productif. Moi, je suis assez, j'ai une approche un peu violente en disant n'en faites pas, c'est juste pour interloquer sur le sujet et vraiment qu'on se pose la question. Mais c'est pas. En tout cas, c'est moi, je le lis pas. Voilà, je le lirai pas.
C'est juste ce que vont retenir nos éditeurs. Éric Larchevêque a dit ne fais pas de BP, j'en fais pas.
Ouais, alors bon, c'est pour ça que c'est dangereux comme on va dire comme message, parce que on a l'impression que finalement on peut s'économiser ce type de réflexion, mais Moi, j'ai jamais fait de BP de ma vie, par exemple. Donc après, qu'est-ce qu'on appelle un BP aussi, hein? Je veux dire, il y a une question de... Moi, un BP, c'est un document de 30 pages avec une analyse du marché, une analyse de la concurrence, des réflexions un petit peu sur le déploiement commercial du produit, du machin. Enfin, c'est des choses qui sont souvent assez empoulées avec ensuite un Excel compliqué qui va permettre de faire tourner des hypothèses et des analyses avec tout un tas de choses. Moi, j'ai jamais fait ça. Bien sûr qu'on l'a fait à un moment quand on avait dépassé l'early stage, mais c'est pas moi qui le faisais, c'était des professionnels du secteur, hein, des experts comptables ou des directeurs financiers. Mais en tout cas, au tout début, moi, j'ai vraiment à chaque fois, c'est un Excel, dans le sens où j'ai juste mois par mois ce que je sors, ce qui rentre. Si j'ai un modèle d'affaires un petit peu compliqué, j'ai une autre feuille dans l'Excel dans laquelle je fais tourner mes hypothèses pour comprendre comment ça marche. Ensuite, je fais 10 slides et chacune des slides adresse les points qui sont essentiels et ça s'arrête là. Je veux dire, je ne vais pas perdre du temps à rédiger des documents, à faire des choses hyper compliquées. C'est ça ce que je veux dire.
D'autant que le BP, quand on est vraiment en early stage, on sait d'avance que nos hypothèses vont changer, que notre business model il risque de changer, que la manière dont on va adresser les clients va changer.
Ouais, complètement. C'est pour ça que c'est quelque chose qui c'est pas une perte de temps, parce qu'encore une fois, c'est un exercice qui peut être intéressant pour faire de la perspective et comprendre. Mais à la fin, c'est pas ça qui va aider à lever et c'est pas ça qui va aider à faire le business. Et en plus, ça va devenir assez caduque. Donc, c'est le même principe que pour un développeur. Il doit sortir son app, il doit tout de suite aller au marché, il doit en fait le tester et pas bosser pendant un an pour avoir le truc parfait et ensuite le sortir. C'est exactement le même principe.
Bah super, merci. Peut-être qu'on peut finir avec une dernière question, mais qui va reprendre pas mal d'éléments qu'on a vus ensemble. Quel est le risque, selon toi, de pratiquer une valorisation trop élevée en early stage pour une startup ?
Le risque, c'est de pas lever, c'est tout. Il est moins risqué de demander une valo élevée que de vouloir lever un montant trop gros. Parce que la valo, on pourra toujours la baisser et je dirais qu'on s'en sort la tête haute et personne ne vous en voudra. Vous dites voilà, je pense que ça vaut 5, vous signez à 3. Très bien. Je dirais à la fin, tout le monde est content, tout le monde a signé. Par contre, si vous dites « je cherche 1 million » et qu'à la fin, vous levez 300, ça ne marchera pas. Donc, le sujet, c'est vraiment avant tout de savoir combien vous voulez lever, combien en dilutif, combien en non-dilutif. Et ensuite, on pourra parler de la valo. Et ça, ce sera toujours négociable. Si quelqu'un veut faire le deal, si quelqu'un est intéressé, il fera une proposition, même quitte à casser la valo en deux. Moi, c'est ce que je fais dans l'émission. Des fois, j'hésite pas, en fait, à casser. Je le fais pas toujours parce que, des fois, je suis peut-être pas assez motivé par le projet lui-même pour pouvoir tenter une négociation difficile, parce que c'est jamais agréable de dire à quelqu'un, ta valo, c'est pas 5, c'est 1 million. Parce que des fois, il y a des ratios et des différences très élevées. Donc, je ne le fais pas systématiquement. Il faut vraiment que je sois intéressé pour le faire. Mais je le fais et j'hésite pas à le faire. Et puis, à la fin, le deal, il est fait et tout le monde, il est content. Par contre, si quelqu'un arrive dans l'émission et demande « je veux 500 000 », et qu'en réalité, il a besoin de 100 000, personne ne mettra 500 000, même s'il met sa valo à 600 000. Parce que dire « mais non, le ticket, il est trop gros. Je ne vais pas aller à 500 000 balles dans ton truc. » Donc ça, ce sont des erreurs qu'on ne peut pas rattraper. Et c'est pareil dans la vraie vie de la levée de fonds. Si vous voulez lever trop d'argent, vous allez voir les mauvais investisseurs, parce que vous cherchez des fonds et des machins, parce qu'il faut 1 million, il faut des montants importants, qu'en réalité, vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas besoin d'autant. Après, pour rétro-pédaler, c'est mort. Donc, c'est pas vraiment le sujet de la valo qui m'inquiète le plus et qui est vraiment le sujet le plus critique. C'est de comprendre son besoin en financement.
Très clair. Moi, j'aimerais conclure par un sujet. C'est le suivant. L'early stage n'est-il pas finalement réservé qu'aux business angels? Je m'explique. On voit souvent des fonds d'investissement qui se targuent d'être des fonds seed, pré-seed, mais in fine, très peu d'investissements par an sur ce genre de boîtes à maturité assez faible. Le gros des deals en early stage est fait par les réseaux de BA ou les BA de leur côté de manière individuelle. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est vrai, et aussi je pense que beaucoup d'entrepreneurs ne veulent pas forcément d'un fonds en early stage ou trop tôt, parce que c'est, ils veulent justement être accompagnés par des personnes qui pourront les aider et ouvrir leur réseau, leur faire partager l'expérience et donc les accompagner de façon assez pragmatique, alors que les fonds, bon, certes, peuvent être là, peuvent aider avec un certain nombre de choses, mais ne vont pas jouer ce rôle. Donc oui, l'essentiel des dealers early stage sont faits par des BA, par des réseaux de BA et d'autres. Alors, il y a des fonds, bien sûr, qui se positionnent là-dessus, mais je pense que rares sont les deals qui se font qu'avec un fonds, par exemple. En général, on va toujours trouver un ou plusieurs BA qui vont du reste servir un petit peu de caution pour le fonds, parce que si on a un BA un peu prominent qui va arriver sur le deal, bon, bah, ça va dérisquer et le fonds va être peut-être plus à l'aise pour investir. Donc, clairement, les business angels et de toute taille, et de toute région et de tout poil jouent un rôle très important dans le financement early stage en France.
Et j'ai même presque envie d'aller plus loin. On voit aussi des nouvelles modes apparaître, hein, comme le crowd equity. C'est quoi ton avis là-dessus?
Alors, il est certain que le crowd equity, c'est quelque chose qui a beaucoup d'avenir, qu'il y aura de plus en plus. On voit, en fait, chez les gens, les particuliers, en fait, une véritable envie de vouloir investir aux côtés des business angels et d'investisseurs. Moi, je reçois beaucoup de messages, et je ne suis pas le seul, hein, de toute la brochette d'investisseurs, sur le jour le même sujet. Est-ce qu'on peut investir à vos côtés? Et ça, c'est l'émission comme Qui veut être mon associé démocratise l'entrepreneuriat, puisque ça montre à tout le monde comment ça marche, ce que c'est, ça crée des vocations, ça donne des envies, c'est inspirationnel. Mais ça fonctionne aussi pour les investisseurs. Il y a des particuliers qui ont un peu une épargne et qui disent « mais moi aussi, j'ai envie d'investir dans les startups ». Et donc, il y a effectivement le crowd equity, il y a le blast d'Anthony, d'Anthony Bourbon, hein, qui est basé vraiment là-dessus. Et on va voir de plus en plus d'initiatives du même genre qui vont croître et se développer. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de demandes de la part des Français, des particuliers qui ont envie d'accompagner les startups, qui elles aussi veulent profiter. Alors certes, c'est risqué. Mais il y a un côté émotionnel en fait important qui fait que ce sont des investissements qu'on a envie de suivre, qu'on regarde et qui font plaisir, qui en plus font du bien à l'économie et qui sont nécessaires. Donc je pense que ça coche beaucoup de cases et que donc c'est voué à un bel avenir.
J'aimerais juste te poser aussi une dernière question. Ça fait beaucoup de dernières questions, mais est-ce que ça t'est arrivé donc de souscrire, hein, une participation? Et de regretter que les fondateurs ne te contactent pas assez, ne te sollicitent pas, alors que toi, tu aurais été en mesure de les débloquer, de les aider, de mettre à disposition du réseau. Est-ce que tu penses que les fondateurs accordent suffisamment d'importance à cette smart money des business angels?
Alors, c'est une bonne question et c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà fait des investissements où finalement, les entrepreneurs, bon, bah, tracer leur ligne et ne faisaient pas appel à moi ou à d'autres, et qu'on apprenait en fait peut-être des choses, des décisions une fois que c'était trop tard. Et je leur disais, attendez, pourquoi vous n'en avez pas parlé? Pourquoi vous avez fait comme ça? Alors, certes, on pourrait me dire, mais attends, j'ai qu'à les contacter, j'ai qu'à les appeler, j'ai qu'à être actif. Et oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, quand on commence à avoir pas mal de participation, c'est pas évident de tout suivre de manière active. Et on se dit que c'est aussi aux entrepreneurs de solliciter leurs investisseurs. Et ça doit être un bon réflexe. Ça doit faire partie des choses que doivent faire les entrepreneurs. C'est vraiment de solliciter les investisseurs. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit y avoir des informations qui sont envoyées régulièrement, tous les mois. Il est important que le CEO ou les associés fassent un petit rapport d'une page avec ce qui s'est bien passé, les problèmes, les demandes, et qui soit diffusé à tous les investisseurs, tous les actionnaires, afin, un, de toujours maintenir le contact, et deux, de pouvoir solliciter en permanence les investisseurs. En plus, c'est un exercice qui est extrêmement instructif pour l'entreprise elle-même. C'est pas juste du temps perdu au profit des investisseurs. Le fait, chaque mois, de passer 2 heures à se dire, bon, qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce qu'on en est? C'est quoi les chiffres? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a pas marché? De quoi on a besoin? Ça, c'est très utile et ça va au-delà donc de l'investisseur. Moi, je me rappelle, dans toutes les boîtes que je faisais, notamment chez Ledger, chaque mois, Je faisais 2-3 pages d'informations que je diffusais à tous les actionnaires. Donc, il y avait de la transparence. Donc, ça demande aussi, bien sûr, de vouloir transmettre les chiffres et de pouvoir communiquer. Mais c'était une manière d'engager les investisseurs à mes côtés et de pouvoir en permanence, finalement, les solliciter. Donc, c'était un travail actif, mais qui permettait de, à la fois de générer du lien et de générer finalement des étincelles, des opportunités, parce qu'ils étaient au courant. Et donc, le conseil à ce sujet que je peux donner à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est vraiment de se forcer tous les mois à faire un petit rapport. Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin de passer trop de temps dessus, mais c'est nécessaire.
Ouais, c'est en early stage, on se rend compte, nous, auprès de notre communauté, que vraiment l'enjeu, il est souvent de maximiser son réseau, hein, son réseau d'actionnaires, d'investisseurs, de les faire participer. C'est un vrai moteur pour la performance de l'entreprise en général.
Ouais.
Eric, on arrive au terme de cette interview. D'abord, je voudrais te remercier.
Bah écoute, merci. Je pense que c'est important de mettre ces sujets sur la table. Et en conclusion, je peux juste inviter tout le monde qui s'intéresse à ces sujets de regarder et d'écouter mes masterclass sur YouTube. Alors j'en parle parce que ça me prend du temps et j'aimerais bien que ce soit utile. Et c'est gratuit, hein, donc moi j'ai rien à vendre, hein, c'est juste voilà des informations que je mets. Et donc je parle de ces sujets, je parle du pitch, je parle des 12 slides qui sont intéressantes et importantes. Donc j'essaye de partager mon expérience et d'avoir des informations utiles et actionnables pour les entrepreneurs. Donc c'est sur ma chaîne YouTube et c'est gratuit et accessible en intégralité.
Le message est passé. Écoute, on est vraiment ravis d'avoir pu discuter avec toi de ce sujet de la valorisation. Et on espère que cet épisode aidera nos auditeurs à mieux comprendre l'importance d'une valo bien calculée en early stage. Merci encore pour ta contribution. Merci Mégane.
Merci Joseph. Merci Mégane.
Et on se dit à très bientôt.
Merci beaucoup Eric.